Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur BAC FM 106.1. Vous écoutez une émission animée par Clément et François, respectivement professeurs de philosophie au lycée Raoul Follereau et Jean Renard, et consacrée au BAC philo qui avance à grands pas pour tous les élèves de terminale. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième temps d'une série de deux émissions. Vous avez pu entendre hier une émission consacrée à la dissertation et aujourd'hui, exercice du bac oblige, nous nous consacrons à l'explication de texte. Alors c'est Clément qui va aujourd'hui expliquer un texte de Henri Bergson, extrait de son ouvrage qui s'appelle « L'énergie spirituelle » et paru en 1919. Alors Clément, bonjour, est-ce que tu pourrais peut-être en quelques mots présenter l'auteur ?
Alors l'auteur, c'est Henri Bergson, c'est un philosophe de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Il est exactement à cheval sur les deux siècles. Il est né en 1859, il est décédé en 1941. Et la première œuvre importante qu'il publie, ce sont les essais sur les données immédiates de la conscience. Et je rappelle cette œuvre parce que ça va être pertinent en l'occurrence pour expliquer notre texte. Dans lequel il va faire une référence, il va débuter en parlant de l'expérience. Et en somme, ce serait une critique d'une certaine abstraction des sciences qui nous ferait passer à côté des phénomènes. Et il nous invite à étudier de près les données de la conscience, à revenir à une expérience, disons, interne.
Alors peut-être qu'on peut rappeler aux élèves qui commenceraient à être effrayés en nous écoutant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances de doctrine sur l'auteur. D'ailleurs, c'est rappelé sur le sujet. Même si on a quelques connaissances sur l'auteur, il est toujours bon de les rappeler et de les utiliser éventuellement.
Alors bien évidemment, il faut le faire après judicieusement, puisqu'une des difficultés ou un des risques, c'est de plaquer nos connaissances sur le texte et de pas expliquer le texte dans sa singularité, dans sa littéralité aussi. Il faut vraiment prêter attention aux termes choisis par l'auteur. Et le risque, effectivement, des fois, en connaissant trop bien l'auteur, c'est de vouloir caser ses connaissances et de recouvrir le texte.
Donc finalement, comme pour la dissertation, le sujet d'abord.
Le sujet d'abord. D'abord, le texte, oui.
Alors, avant de lire le texte, est-ce que tu pourrais simplement dire le thème général du texte ?
Alors, c'est un texte qui porte sur les notions de matière et esprit. On pourrait aussi bien dire le corps et l'âme. Donc, ça porte aussi sur la conscience. Et puis, il y a d'autres notions qui gravitent, qui sont liées à cette notion, à la matière et l'esprit. On va le voir justement dans les enjeux, lorsqu'on va essayer de dégager les enjeux. Par exemple, la question de la liberté.
Que nous dit l'expérience ? Elle nous montre que la vie de l'âme, ou, si vous aimez mieux, la vie de la conscience, est liée à la vie du corps, qu'il y a solidarité entre elles, rien de plus. Mais ce point n'a jamais été contesté par personne. Et il y a loin de là à soutenir que le cérébral est l'équivalent du mental, qu'on pourrait lire dans un cerveau tout ce qui se passe dans la conscience correspondante. Un vêtement est solidaire du clou auquel il est accroché. Il tombe si l'on arrache le clou. Il oscille si le clou remue. Il se troue, il se déchire si la tête du clou est trop pointue. Il ne s'ensuit pas que chaque détail du clou corresponde à un détail du vêtement, ni que le clou soit l'équivalent du vêtement. Encore moins s'ensuit-il que le clou et le vêtement soient la même chose. Ainsi, la conscience est incontestablement accrochée à un cerveau, mais il ne résulte nullement de là que le cerveau dessine tout le détail de la conscience, ni que la conscience soit une fonction du cerveau. Tout ce que l'observation, l'expérience, et par conséquent la science, nous permettent d'affirmer, c'est l'existence d'une certaine relation entre le cerveau et la conscience. Voilà le texte donc que tu as choisi pour l'explication. Peut-être peut-on rappeler les étapes d'analyse quand le candidat a choisi le texte, qu'il a fini par choisir ce troisième sujet. Alors, rappelons qu'il y a deux sujets de dissertation, un sujet d'explication de texte. Qu'est-ce que doit faire le candidat ?
Ben déjà, c'est un petit peu comme lorsque vous regardez un débat télévisé ou lorsque vous regardez une émission télé, il est bon de savoir de quoi ça va parler. Donc je l'ai fait précédemment de bien indiquer le thème, de commencer par rappeler aussi tout simplement qu'on a affaire à qu'on va expliquer et aussi essayer de commenter. C'est une manière d'approfondir son explication, un texte d'Henri Bergson, tiré en l'occurrence d'un recueil de conférences qui s'appelle « L'énergie spirituelle ». Ici, nous avons la conférence « L'âme et le corps ». Et l'avantage avec l'explication commentaire de texte, c'est que vous n'avez pas, comme pour la dissertation, à trouver un plan, puisqu'au fond, vous devez calquer votre plan sur la structure du texte. Donc une fois que vous avez, je reprends dans l'ordre, une fois que vous avez indiqué le thème, indiqué la thèse de l'auteur, c'est-à-dire quelle est la position défendue par l'auteur sur un problème philosophique, Le problème philosophique, l'auteur peut l'exposer dans le texte. Parfois, il n'est pas explicite, c'est à vous d'essayer de le retrouver. Alors, il y a quelques astuces pour ça. Il s'agit, une fois qu'on a dégagé la thèse, d'essayer de formuler la thèse de manière interrogative. Par exemple, c'est une manière de procéder. Même chose, la thèse n'est pas nécessairement explicitement formulée par l'auteur, ou elle ne se trouve pas à un endroit particulier du texte, mais elle est à dégager de l'ensemble du texte. Tout ça pour vous dire que vous ne pouvez pas faire l'économie d'une compréhension globale du texte. Donc thème, thèse ou problème, peu importe l'ordre. Dégager ensuite la structure du texte, ne pas se contenter de la dégager de manière simplement formelle, en indiquant de la ligne 1 à la ligne 2, première partie, etc. Mais d'indiquer la cohérence d'ensemble du passage, de quelle manière le texte forme un tout cohérent. Et puis, alors ça fait déjà pas mal de choses, indiquer aussi, si possible, les enjeux à la toute fin de l'introduction.
On peut peut-être rappeler d'ailleurs que pour dégager le sens global du texte, hein, ce qui est évidemment le point le plus important de l'exercice, il faut commencer par faire un repérage des termes qui reviennent. Par exemple ici, hein, on a ce terme d'âme, de conscience, et puis par ailleurs le corps, le cerveau, hein, tout le vocabulaire à la fois du mental d'une part et du physique d'autre part, et éventuellement même repérer les connecteurs logiques qui permettront peut-être de repérer la structure. Hein. Donc il faut passer un certain temps au brouillon dans un premier temps, hein, à travailler dans tous les sens. Alors, le texte.
Passer beaucoup de temps au brouillon et passer beaucoup de temps à travailler aussi sur le texte. Donc comme tu le suggérais, entourer les mots qui reviennent souvent, entourer les mots importants, mettre des barres pour indiquer les différentes articulations du texte. Alors, tu invitais les élèves à faire attention aux connecteurs logiques, ça peut être aussi trompeur.
Oui.
Là, en l'occurrence, il y a un mais qui apparaît à la quatrième ligne du texte. Il faudrait sans doute pas voir une articulation ici. Le mais n'indique pas nécessairement une opposition. Il peut au contraire permettre de développer l'idée qui précédait. Donc, se méfier de ça, c'est pas mécanique. C'est pas mécanique.
Alors, si on en revient au texte lui-même, est-ce que on peut dégager ici la problématique et la thèse?
Alors, ici, on comprend nettement que Bergson, j'ai commencé par la thèse, faut être le plus précis possible, la reformuler. Bergson le dit d'ailleurs à la fin du texte, qu'il essaye de montrer qu'il y a une relation entre l'esprit et la matière, plus précisément entre l'âme et le corps, ou encore entre le mental et le cérébral. Ce sont ici des termes synonymes. Il y a une relation entre les deux. Et on va dire seulement une relation. Son objectif principal ici, c'est de remettre en question ou de lutter contre, disons, un réductionnisme qui consisterait à identifier le mental, l'esprit ou l'âme au corps et à dire qu'au fond, c'est la même chose. Donc là, il veut dire qu'il y a bien une relation entre les deux et c'est incontestable. Il ne dit personne n'a jamais contesté qu'il y a une relation entre les deux. Par contre, la science ne peut pas, malgré ce qu'elle essaye de nous faire croire ou ce qu'elle essaye de dire, ne peut pas démontrer qu'il y a une identité entre le cérébral et le mental. Le mental, pour fonctionner, a besoin du cérébral, c'est ce qu'on va essayer de voir, mais ne s'identifie pas.
Oui, ici, la difficulté que j'ai pu voir d'ailleurs personnellement dans certaines copies d'élèves à qui j'ai pu donner les années passées ce texte, confondait justement l'idée de relation avec l'idée d'identité. Et justement, s'il y a relation, c'est bien pour signifier que les deux termes sont distincts. Il y a relation entre des termes distincts.
Oui, et relation entre des termes distincts, puisque à la fin du texte, on y reviendra, il parle d'une thèse qu'on appelle le fonctionnalisme, que la conscience serait une fonction du cerveau, elle serait une production du cerveau de la même manière que l'estomac produit des sucs gastriques qui permettent la digestion. Alors, la relation peut impliquer une forme de dépendance. Et là, en somme, s'il n'y avait pas ce support matériel premier, la pensée ne pourrait pas émerger. Là, c'est pas ce que dit Bergson. C'est-à-dire que ce ne sont pas deux substances, du moins est-ce qu'on peut le conclure uniquement de ce texte, ce ne sont pas deux substances qui peuvent exister séparément ou isolément l'une de l'autre, et encore, mais néanmoins on ne peut pas ramener, encore une fois, ou réduire l'une à l'autre.
Alors ce qui est important, il me semble, d'un point de vue méthodologique ici, c'est la démarche que tu as eue ici, de dégager la thèse adverse. Parce qu'il peut être parfois plus facile de montrer quel est l'adversaire, qu'il soit nommé ou qu'il ne soit pas nommé. Ici, il n'est pas particulièrement nommé d'ailleurs. On ne nomme même pas d'ailleurs la thèse à laquelle il s'oppose, en tout cas pas précisément. On peut d'ailleurs la nommer. Il s'agit du matérialisme ici. Hein, tu parlais du réductionnisme, hein, de la réduction à la matière. On peut, en autre terme, le matérialisme. On a un des grands représentants du matérialisme actuel, c'est Jean-Pierre Changeux, par exemple, hein, qui était professeur au Collège de France, spécialiste des neurosciences, hein, spécialiste du cerveau, du fonctionnement du cerveau, qui est un grand réductionniste. Bon, bien sûr, on n'est pas à la même époque, personne ne connaissait pas Changeux, mais d'une certaine manière, il s'adresse à l'avance à de tels matérialistes, et il y en avait d'autres d'ailleurs à l'époque de Bergson. Donc ça peut être une bonne manière de procéder que de repérer cette thèse adverse pour essayer de dégager la thèse positive de l'auteur, on peut dire ici. Hein.
Oui. Donc. Alors, disons que les promoteurs ou les défenseurs du matérialisme étaient déjà nombreux à l'époque de Bergson. Qu'on range du côté des spiritualistes, alors ça signifie pas qu'ils n'accordent pas une certaine réalité à la matière, néanmoins. C'est bon. Donc le matérialisme, ça consiste effectivement à dire qu'au fond là ici tout est matière. Ce que n'affirme pas effectivement Bergson. Donc c'est bon de voir l'adversaire théorique. Là, ça permettrait en plus de contextualiser, puisqu'au fond là peut-être que Bergson a un petit peu perdu la bataille. Au final, on est à peu près un siècle après la publication de cette conférence, et le matérialisme a gagné du terrain. On peut lire des affirmations assez osées. Alors, je m'appuie sur un livre qui a eu un certain succès en librairie. Pourquoi ne suis-je pas mon cerveau? Écrit par Marcus Gabriel. Et il rappelle que...
Un philosophe allemand, qui a beaucoup de succès actuellement, oui.
Spécialisé dans la philosophie de l'esprit, en partie. Et qui rappelle qu'il y a eu en 1990 et aussi dans la première décennie du 21e siècle, des décennies qui ont été consacrées au cerveau, à la compréhension du cerveau. Et on pouvait lire dans un communiqué de presse allemand qui relatait l'ouverture de cette décennie du cerveau, la phrase suivante: qu'il soit un jour possible d'observer le cerveau en train de penser n'aurait été que pure et simple spéculation il y a encore 10 ans. Donc on prétend ici, dans ce communiqué de presse, dire qu'on peut voir un cerveau en train de penser. On peut voir presque la pensée. Ce qui en réalité n'est pas du tout le cas et sans doute du délire presque.
Alors ce qui est intéressant, ce que tu viens de souligner et qu'on va développer en s'intéressant plus près au texte, c'est que finalement le matérialisme s'autorise de la science et de l'observation scientifique. Hein, on pourrait dire presque se dissimule derrière la science ici. Et c'est bien ce que conteste précisément Bergson ici.
Alors tu dis le matérialisme se dissimule derrière la...
En tout cas elle s'autorise.
Oui.
Le terme était un peu fort.
Mais ce qu'il remet en question ici, finalement, c'est que la science est bien obligée de s'appuyer sur une métaphysique. Elle prétend évacuer la métaphysique, ou tout du moins même la philosophie, peut-être, alors que, en réalité, ce que fait ici la science, c'est justement de reprendre une thèse matérialiste, et le matérialisme, c'est une thèse philosophique.
Comment est-ce que tu pourrais définir métaphysique ici, peut-être pour les élèves?
Alors, classiquement, la métaphysique, ça correspond au domaine qui dépasse tout objet d'expérience sensible. Donc, les objets privilégiés de la métaphysique, c'est l'âme, en tant qu'elle est immortelle et donc immatérielle aussi.
Et là, on y est.
On y est pleinement. La liberté, et c'est lié justement à cette indépendance de l'âme ou de la conscience aux lois qui régissent la nature, au déterminisme naturel, et puis c'est le monde dans sa totalité. Donc les objets privilégiés de la métaphysique, c'est Dieu, l'âme, la liberté et le monde.
Bien. Alors, donc on rappelle que la thèse ici que tu viens de dégager en quelques mots, hein, c'est que pour Bergson, on ne peut pas affirmer l'identité, contrairement à ce que fait le matérialisme, l'identité de l'âme et du corps, ou de la conscience et du cerveau, pour utiliser des termes plus contemporains, mais seulement une relation entre les deux. Alors du coup, à partir de cette thèse, est-ce qu'on peut remonter à la problématique?
Oui, à la problématique, c'est la difficulté. Alors on peut la formuler de la manière suivante. Donc peut-on expliquer la pensée ou la conscience, le mental, simplement à partir de son support matériel? Autrement dit, peut-on ramener la pensée à la nature? C'est une position physicaliste ou naturaliste. Par contre, il ne faudrait pas chercher le problème suivant qui n'est pas, alors quelque peu, mais qui n'est pas directement l'objet de ce texte. Il ne s'agirait pas ici de demander au texte de quelle manière Bergson conçoit la relation entre entre l'esprit et le corps, puisqu'il nous dit qu'ils sont solidaires. Il va prendre l'analogie entre un manteau et un clou. Il va nous dire que l'esprit est accroché au corps, mais il ne va pas plus loin. En somme, ici, le but de l'analogie, c'est de réfuter le réductionnisme, de réfuter le matérialisme. Il ne faudrait pas non plus aussi se poser la question. Le problème, ce n'est pas, du coup, qu'est-ce que l'âme ?
Oui.
C'est quoi ? C'est quelque chose d'immatériel, etc. Donc, c'est véritablement...
un texte critique, finalement.
Oui.
Alors, une fois qu'on a dégagé cette thèse et cette problématique, on peut, en quelques mots, ici, il faut d'ailleurs donner en quelques mots le découpage du texte, en le justifiant. Alors, évidemment, les auditeurs n'ont pas le texte sous les yeux. On tâchera de le mettre, d'ailleurs, hein, soit sur le site, soit sur la page Facebook de la radio, pour que vous puissiez suivre en même temps. Mais est-ce que, du coup, tu pourrais nous donner ton découpage, ici ?
Alors, une première partie, dans une première partie, qui va de la ligne 1 à la ligne 8, Bergson s'attache donc à montrer qu'il y a certes, à reconnaître effectivement qu'il y a certes une relation que personne n'a jamais contestée entre l'esprit, entre l'âme et le corps, pardon, mais que cette même expérience ou des faits nous montre qu'on ne peut pas réduire l'une à l'autre et qu'il n'y a pas d'équivalence, c'est ici l'expression qu'il prend, entre les deux. Il va ensuite, dans une seconde partie du texte, de la ligne 8 à la ligne 14, s'appuyer sur une analogie, on précisera ce que c'est un peu plus tard, analogie qui lui permet d'illustrer cette différence qu'il tend à appuyer. Alors, les faits sur lesquels il s'appuie, il ne les mentionne pas. Hein. Par contre, dans ce texte, il reste assez général. Il faudra essayer de donner éventuellement un ou deux exemples. Et puis, fort de cette analogie, il conclut par un « ainsi ». Rejetant dos à dos les deux thèses ici auxquelles il s'oppose, on pourrait dire donc le réductionnisme et puis le fonctionnalisme, c'est-à-dire de faire de la pensée une fonction du cerveau ou une production du cerveau.
Alors, on va marquer une première pause musicale en écoutant Bob Dylan, Things Have Changed.
White skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the noose. Any minute now, I'm expecting all hell. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think you've got anything to prove. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. I've been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right,
the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Nous sommes de retour sur Bac FM 106.1, où vous nous retrouvez donc pour une émission consacrée au bac philo, et en particulier à une explication de texte de Bergson. Donc Clément, tu as proposé ici une introduction, hein, avec les différents éléments, le thème du texte, et on n'a pas dit, mais il faut présenter le texte dans un premier temps d'ailleurs, hein, au début de l'introduction. On l'a fait au tout début, donc présentation, le thème, la thèse, la problématique et le découpage justifié du texte. Donc on a tous nos éléments, donc on peut s'engager cette fois-ci dans l'explication du texte lui-même. Alors, tu as dégagé une première partie, avant la pause musicale, hein, que tu nous as présentée. Alors, est-ce que tu peux te lancer dans cette explication plus précise ?
Oui, alors, juste une petite chose, on les a déjà quelque peu mentionnés, les enjeux, bien les rappeler ici, puisque c'est extrêmement important, encore une fois, dans le contexte actuel où on prétend réussir à télécharger l'esprit ou télécharger l'âme sur des supports numériques. Donc bien avoir ça en tête. Alors, Bergson commence à poser une question. Il nous dit, que nous dit en effet l'expérience ? Alors cet en effet renvoie à un passage précédent, ici mettons ça entre parenthèses, il nous dit que nous dit l'expérience ? Donc il va s'appuyer sur les faits. Alors première chose assez intéressante, avant de se demander exactement ce qu'il faut entendre ici par expérience, tous les termes sont à préciser, sont à définir, c'est intéressant puisque même si on doit expliquer le texte de manière linéaire, on sait que l'expérience ici va renvoyer à la science,
à la toute fin du texte,
c'est précisément la science qui prétend se fonder sur l'expérience. Dire ce qui caractérise la science, ce serait une méthode empirique, ce sont d'abord les faits, d'abord l'observation. Donc la science, dirait, forte de ses observations et de ses faits, elle pourrait défendre son matérialisme. Or, ce que Bergson va nous dire, c'est que l'expérience ne nous dit pas que tout est matière, ne nous dit pas que nous sommes autorisés à identifier les deux. Donc ici, si je peux essayer de préciser un petit peu ce qu'il faut entendre par l'expérience. Alors on peut dégager trois sens du mot expérience, hein, couramment. C'est l'expérience au sens de l'expérience sensorielle, qui n'est pas ici à exclure. L'expérience au sens de l'expérience quotidienne, l'expérience qu'on fait sans préparation. Et puis l'expérience au sens de l'expérimentation scientifique, qui est une expérience qui est volontaire, qui est préparée, dont le but est de vérifier une thèse ou une hypothèse. Alors ici, l'expérience, ça ne va pas être celle qui est privilégiée par les sciences, une expérience, on va dire, objective ou pleinement objective. Ça va être une expérience qui est indissociable de la subjectivité, c'est la manière dont, précisément, on est un spectateur privilégié ici. Nous sommes un esprit, nous sommes une conscience, nous sommes le mental. Donc il serait quand même un petit peu curieux d'écarter d'emblée tous ces faits, tout ce que nous éprouvons, tout ce que nous ressentons, pour se limiter simplement à quelque chose d'objectif, autrement dit à la matière qui serait mesurable, quantifiable, divisible, etc.
Et pourtant, c'est ce que fait le matérialisme.
Du coup, écartant carrément ce qu'il s'agit d'expliquer.
On peut dire que le matérialisme réduit le sens de l'expérience, finalement. Oublie notre expérience de cette relation entre l'âme et le corps.
Oui. Et du coup, la science passe à côté d'une grande partie des faits. Or, elle devrait tenir compte de tous les faits. On pourrait même, ici, sans aller trop loin, puisque c'est pas l'objet du texte, s'appuyer sur Karl Popper, qui nous dit qu'un bon scientifique, c'est pas quelqu'un qui doit provoquer des faits ou amener des faits qui vont confirmer ce qu'il pense, mais au contraire, il doit se servir des faits pour essayer de mettre à mal sa théorie. Donc, les scientifiques ou les matérialistes, s'ils veulent améliorer leur théorie ou leur hypothèse, si tant est qu'ils estiment que c'est une hypothèse et qu'une hypothèse, devraient justement tenir compte de ces faits pour réviser, amender, améliorer leur théorie.
Précisons quand même, pour ne pas glisser vers le contresens, que Bergson n'est en rien un anti-scientifique, même si on le fait passer parfois pour un spiritualiste serait opposé aux sciences de la nature. Bergson, au contraire, avait une vraie formation scientifique, c'était un grand lecteur des sciences et des sciences de son temps, et ici il n'est pas du tout opposé aux sciences et aux observations scientifiques. Il reproche simplement matérialiste d'abuser des faits d'une certaine manière de l'observation scientifique en lui faisant dire ce qu'elle ne peut pas dire.
C'était justement ce que j'essayais d'exprimer avec la citation tout à l'heure de Marcus Gabriel, et c'est justement parce qu'il est, comment dire, il est soucieux de la rigueur scientifique qu'il fait ce reproche à la science.
Oui.
Alors dans une autre conférence, il parle de la télépathie. La télépathie, on va dire, c'est du surnaturel. C'est pas quelque chose que la science peut prendre en considération. Mais si le fait est bien établi, il faut bien que d'une manière ou d'une autre, la science tienne compte de ce point. Alors ensuite. Que nous dit l'expérience? Du coup, elle nous montre, dit Bergson, que la vie de l'âme, ou si vous aimez mieux, la vie de la conscience, est liée à la vie du corps. Alors, ici, il prend âme comme synonyme de conscience. Ici, il les identifie, c'est la même chose. La conscience, précisément, c'est ce qui est accompagné de savoir, étymologiquement, c'est ce qui se passe en nous et qui est su, immédiatement. Et il nous dit qu'il y a, effectivement, une solidarité entre elles, rien de plus, c'est-à-dire pas identité précisément et pas réduction.
Pourquoi si vous aimez mieux finalement? Il me semble que c'est une question de vocabulaire ici plus contemporain finalement.
C'est que l'âme effectivement, sans peut-être sa théologie, peut-être sa philosophie un petit peu scolastique et dépassée, on peut d'ailleurs faire une distinction entre les deux en pensant que l'âme n'est pas nécessairement consciente. L'âme, c'est, on va dire, le principe d'animation. D'un être, et on pourrait considérer que ce principe d'animation, justement, est matériel. C'est les lois de la mécanique.
Oui.
Donc oui, c'est pour effectivement moderniser un petit peu, ou ne pas rebuter un certain lectorat, peut-être, oui.
Et pour montrer peut-être que ce n'est pas un problème métaphysique daté, mais qu'il, au contraire, avec les avancées scientifiques, biologiques, alors de l'époque, mais on pourrait dire encore plus maintenant, à notre époque, on parle de sciences cognitives, de sciences du cerveau...
Le vocabulaire change, mais au fond, le problème philosophique est sans cesse réactualisé, mais est toujours le même. Ce qui posera d'ailleurs un problème, encore une fois, Bergson ne prétend pas le résoudre, il va apporter une explication pas dans ce passage, mais à partir du moment où on va distinguer l'esprit et le corps, effectivement, et il va falloir penser leur relation. Alors il dit, il y a une relation, mais laquelle? Alors, difficile problème qu'on essaye de résoudre justement, soit en séparant la relation. En disant soit qu'il n'y a monisme spiritualiste, on pourrait dire, ou idéalisme, il n'y a que la conscience, il n'y a que l'âme, ou de l'autre côté, il n'y a que de la matière, un monisme matérialiste. Mmh. Alors, prêtez attention, donc comme tu viens de le faire, au terme, ici il dit solidarité. La solidarité, ça implique une... Dans le sens où, par exemple, il y a solidarité entre des pièces d'un meuble, ça fonctionne ensemble, mais ce sont bien deux réalités distinctes. Alors c'est aussi une difficulté liée sans doute au langage, et là Bergson aurait beaucoup de choses à dire, c'est que les mots vont nous inviter peut-être à matérialiser quelque chose qui n'est pas matériel. En l'occurrence, à considérer ici, on va y venir plus tard, l'esprit qui n'est pas une chose matérielle comme un manteau, alors que le manteau est une chose matérielle, ce que n'est pas l'esprit.
Alors, tu as expliqué cette première partie. Alors, puisque tu viens de l'évoquer, peut-être nous pouvons passer au deuxième temps du texte.
Oui, alors juste une petite chose très rapidement, hein, pour montrer effectivement qu'il y a solidarité entre les deux, on pourrait s'appuyer sur des exemples très simples. On s'aperçoit bien que lorsqu'on est fatigué, alors est-ce que c'est le corps qui est fatigué? On va dire lorsque notre corps est fatigué, on a plus de mal à trouver nos mots, nos idées s'enchaînent d'une manière plus difficile. Lorsque nous prenons certaines substances, boire de l'alcool affecte nos capacités mentales. Donc on voit bien ici une relation entre les deux. Bergson prend l'exemple du chloroforme, par exemple. De l'autre côté, il nous dit, mais ce point n'a jamais été contesté par personne, ce qui permet aussi de montrer que ce qu'il avance là, c'est pas du tout saugrenu, c'est pas la lubie de Bergson, c'est que tout le monde est d'accord avec ça. Donc il met l'opinion, l'expérience commune de son côté.
Et d'une certaine manière, ce qu'il critique, c'est que les matérialistes créent un ennemi un peu trop facile, un faux ennemi de ceux qui affirmeraient que finalement le cérébral et le mental n'ont rien à voir ensemble, ce que personne précisément n'affirme. Nous faisons tous l'expérience justement d'une solidarité entre les deux, hein. Tu parlais de la fatigue et on peut mentionner plein d'autres cas, hein.
On fait l'expérience d'une solidarité, mais on fait aussi l'expérience d'une nette différence. Penser, c'est manipuler des idées, et réussir à rattacher une idée à une quelconque matière, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement délicat, extrêmement, extrêmement difficile. On pourrait prendre l'exemple d'une perception. Une perception, ça suppose une activité de l'esprit, une activité de l'âme. C'est quelque chose, lorsque c'est une perception qui est consciente, je perçois un objet. Si c'était un processus uniquement matériel, je percevrais tous les stimuli qui frappent, ma rétine, etc. Bref, je ne percevrais pas une chose, une perception. De la même manière, j'ai un souvenir d'une époque particulière, ce qui est une réalité justement consciente, qui est une réalité spirituelle. Je n'ai pas tout un tas de souvenirs matériels, c'est-à-dire séparés les uns des autres, qui se succéderaient sans liaison les uns à côté des autres.
Donc, ce que Bergson conteste d'ailleurs ici, c'est l'erreur logique des matérialistes. Au fond, passer de l'idée de relation, de solidarité, à l'idée d'une identité des deux, d'une réduction de l'un à l'autre.
Oui.
Et ici, en l'occurrence, du mental au cérébral.
Au cérébral. Et avec cette idée que si on avait finalement un bon dictionnaire qui permettrait de traduire une activité matérielle en pensée, nous arriverions à savoir strictement ce que le sujet pense ou ce que le sujet éprouve.
Et c'est exactement la pensée d'un Jean-Pierre Changeux qui considère qu'avec les nouvelles techniques informatiques le terme ne va pas, d'échographie du cerveau, en tout cas d'usinage du cerveau, du fonctionnement du cerveau, on peut isoler telle ou telle pensée. Alors pour l'instant, on n'est qu'à repérer des zones, mais on pourrait peut-être aller jusqu'à isoler une pensée singulière, une perception singulière, un rêve précis, etc.
Et on voit bien les enjeux. Alors il peut y avoir des enjeux positifs, c'est-à-dire que comprenant les raisons matérielles d'un trouble mental ou d'une maladie mentale, on pourrait guérir une maladie mentale en agissant directement sur le cerveau, sur le support matériel. Donc ça serait ça, pour le coup, extrêmement, extrêmement précieux. De l'autre côté, on pourrait aussi, le penseur ou le sujet conscient pourrait perdre son autonomie, puisqu'on pourrait agir sur le support cérébral pour ensuite le conditionner à penser telle ou telle chose. On pourrait produire littéralement des pensées.
Alors justement, on en vient à une idée. Et on peut ici utiliser, et d'ailleurs il faut utiliser dans une explication de texte les repères qu'on a vus dans l'année, les textes qu'on a pu voir par ailleurs. Ici, au fond, on est avec le matérialisme, on est face à une thèse déterministe, avec l'idée que le cérébral cause le mental, hein, que l'un est cause et l'autre l'effet de cette cause. Donc ici, on peut réemployer ce terme de déterminisme, hein, et ce qui renvoie également, pour ceux qui ont notamment travaillé sur Descartes, hein, la thèse des animaux-machines, par exemple, hein, à la notion de mécanisme. Au fond, le matérialisme considère que le cerveau fonctionne comme une machine très complexe, mais qu'on peut en tout cas voir comment s'enchaînent les causes et les effets, et que le mental n'est qu'un effet, finalement, du neuronal, du cérébral.
Oui. Et déterminisme qui est fatal pour le libre arbitre. Raison pour laquelle Descartes, alors pour d'autres raisons, pas simplement pour celle-ci, se tient bien justement d'identifier ou de réduire l'une à l'autre. Ce serait fatal pour la liberté humaine. Et si l'homme est un être naturel, alors quoi de la morale ? Nous cessons d'être des êtres moraux. Ça pose de gros problèmes socialement, puisque nous continuons justement de nous fonder sur la liberté humaine pour constituer une morale, pour sanctionner, pour récompenser, pour punir. Et l'autre problème, c'est que si l'âme est réductible à une simple matière, il n'y a pas d'immortalité de l'âme. Alors, c'est un problème. En tout cas, ça a des conséquences théologiques et religieuses importantes.
On a un Bergson qui n'est pas si éloigné Descartes, finalement, ici. En tout cas, dans ce texte.
En effet, oui.
Bien, alors on va écouter maintenant une seconde chanson qui porte, je pense que les auditeurs comprendront, sur cet effet que peut avoir le physique sur le mental. C'est « Lost in the Sky with Diamonds » de The Beatles.
In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Bien, donc Clément, nous te retrouvons sur Bac FM 106.1 hein, pour la deuxième émission de cette série consacrée au Bac Philo. Nous commentons aujourd'hui nous commentons un texte de Bergson, L'âme et le corps, hein, extrait de l'énergie spirituelle. Alors venons-en à l'analogie proprement dite, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, cette analogie du vêtement et du clou qui peut paraître un peu surprenante. Hein. Cette idée que le vêtement est solidaire du clou auquel il est accroché, je la relis rapidement, hein, il tombe si on arrache le clou, il oscille si le clou remue, il se troue, il se déchire si la tête du clou est trop pointue, Il ne s'ensuit pas que chaque détail du clou corresponde à un détail du vêtement, ni que le clou soit l'équivalent du vêtement. Encore moins s'ensuit-il que le clou et le vêtement soient la même chose. Alors, ici, tu as prononcé tout à l'heure le terme d'analogie. Est-ce que tu peux éventuellement définir ce qu'est une analogie ? Une analogie, pardon. Et peut-être qu'on peut rappeler, avant que je te laisse le définir, bien rappeler qu'une explication de texte, c'est, on demande aux élèves, aux candidats, de bien montrer quel est le mode d'argumentation de l'auteur. Hein. Donc si on a un raisonnement par l'absurde, il faut le dire. Si on a ici un raisonnement par l'analogie, il faut bien sûr souligner ce terme.
Oui. Même si c'est un professeur de philosophie qui va vous corriger, dites-vous que non, ce n'est pas un professeur de philosophie. Il est nécessaire de lui expliquer les choses. Et donc de lui expliquer aussi, avant de lui expliquer que c'est un raisonnement par analogie et ce qu'est une analogie, de dire quels sont les termes de cette analogie. En l'occurrence, il nous dit un vêtement est solidaire du clou auquel il est accroché. Il tombe si on arrache le clou, il aussi si le clou remue, etc. Autrement dit, le vêtement ici ou le manteau ici, on pourrait dire c'est un, le terme ici est vêtement. Le manteau, il y a un jeu de mots entre le mental et des processus mentaux. Mmh. Bon. Pour quelle raison, on pourrait se demander, il prend cette analogie. Donc l'esprit ici, c'est le manteau. Et le clou, ce sera le support cérébral, le cerveau, le cérébral. Alors une analogie, c'est une comparaison. Simplement, la comparaison, ça consistera à dire qu'au fond, l'esprit est un manteau ou l'esprit est un vêtement. Ce qui n'est pas le cas ici. L'analogie, c'est une analogie de rapport. C'est autrement dit, la comparaison porte sur le rapport et pas sur les termes. Il en va de A et de B comme de C et de D. Donc il en va de l'esprit et du cerveau comme du manteau et du clou.
Alors du coup on voit qu'il est assez précis dans cette analogie. Il parle des différents effets qu'a le clou sur le vêtement, le fait que le vêtement tombe si on enlève le clou, le fait que si le clou remue, le vêtement oscille. Et il me semble passage intéressant que le manteau se troue si la tête du clou est trop pointue et donc déchire le vêtement. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ces différents? Il me semble qu'il faudrait pas passer trop vite. Est-ce qu'une copie d'élève un peu trop hâtive oublierait un peu de d'analyser le détail ici? Au contraire, il faut regarder un peu ce détail là.
Même justement, alors là on a peut-être une explication pourquoi le manteau, on se demandait tout à l'heure, parce que ça dépasse aussi, c'est beaucoup plus large et ça enveloppe, c'est beaucoup plus large en tout cas que le clou, qui reste finalement assez mince en comparaison. Le verbe ici est accrocher, au sens où on accroche quelque chose. Le cerveau, l'esprit, pardon, est accroché au cerveau. Donc même ce terme ici est à prendre en compte. Alors si on détaille, la première chose qu'il nous dit, c'est analogie, donc comme un vêtement accroché à un clou. Imaginons que le clou, qu'on arrache le clou, à ce moment-là, effectivement, le manteau tombe. S'il y avait réduction, si au fond on arrache le clou, ou même allons plus loin, si on supprime le clou, ça signifierait qu'on supprime aussi le manteau. Et qu'il y a disparition du manteau, disparition du vêtement. Donc là, la suppression du clou n'entraîne pas la disparition ou la suppression du vêtement. Ce sont donc bien ici deux réalités distinctes, autonomes, séparées. Ce serait la première chose. En tout cas, la solidarité est bien montrée. Vous modifiez l'état cérébral, il y a bien une modification qui se ressent, qui est perceptible dans l'esprit. Deuxième point, donc il tombe si l'on arrache le clou, il oscille si le clou remue. On pourrait prendre effectivement un état cérébral quelque peu modifié ou altéré par des substances, et on voit bien que l'esprit s'en ressent. Il se troue, il se déchire si la tête du clou est trop pointue. Alors, on voit bien effectivement ce que ça peut être, un trou dans le manteau, un trou dans un vêtement. Par contre, qu'est-ce que ça peut être, un trou dans un esprit? Est-ce que ce serait un trou de mémoire, par exemple? Est-ce que c'est une partie de l'esprit qui disparaît du coup à jamais? Est-ce qu'on peut ensuite recoudre le manteau, compléter le trou?
Alors on peut peut-être penser à des cas qui intéressaient tout particulièrement Bergson, puisqu'il s'est beaucoup intéressé, c'était le cas dans l'essai sur les données immédiates de la conscience dont tu parlais tout à l'heure, qui était sa thèse de doctorat d'ailleurs, au cas d'aphasie, c'est-à-dire de perte du langage lorsque certaines zones du cerveau sont atteintes. Peut-être qu'ici, lorsqu'il parle du fait que le vêtement est troué par le clou, on peut penser justement aux lésions cérébrales qui peuvent avoir des effets, soit pas alors de perte de langage, mais aussi par exemple on peut penser à des hallucinations. En tout cas, c'est un effet psychique.
Alors là, on touche peut-être aux limites de son analogie.
Oui.
Qui ne reste qu'une analogie qui pourrait induire en erreur. Je remonte un petit peu en amont. Bergson, ici, il ne le précise pas. Il dit que la conscience, qu'est-ce que la conscience? C'est difficile à déterminer. La conscience est d'abord mémoire. Donc, capacité à retenir le passé pour pouvoir au présent anticiper sur l'avenir. Et la manière dont les matérialistes conçoivent le fonctionnement de la mémoire, c'est en sorte impression d'une image sur une plaque, un peu comme on va graver une mélodie sur un disque. Donc, impression matérielle. Donc, des souvenirs qui s'imprimeraient les uns à côté des autres, ou successivement, ou à la suite. De telle sorte que si effectivement il y a une lésion cérébrale, où le support matériel est attaqué, ça signifie que la trace ou le souvenir disparaît. Donc effectivement, s'il y a un trou si le clou fait un trou dans le manteau, ça signifie que la mémoire est définitivement perdue. Ce que nous montre Bergson avec l'aphasie, donc qui est un oubli des mots, c'est que effectivement, lorsqu'il y a aphasie, il y a bien une lésion. Mais si elle est lésion et que la mémoire, c'est simplement quelque chose qui est contenu dans le support matériel, comme des livres dans une bibliothèque ou comme donc une impression sur une plaque, ça signifierait que les mots seraient définitivement perdus. Mmh. Or, à l'occasion d'une émotion importante, il peut y avoir le rappel du mot. Ce qui signifie que le mot n'en est pas localisé quelque part dans un endroit du cerveau. Là, c'est vraiment le réductionnisme un petit peu simple. C'est on arrive à localiser dans telle circonvolution du cerveau la mémoire des mots. Lorsque cet endroit du cerveau est altéré, effectivement, les mots disparaissent. Or non, si on arrive à réparer, on va dire, ce support cérébral, le mot revient. Donc ça va permettre à Bergson de soutenir l'idée suivante, qu'au fond, le cerveau n'a qu'une fonction de rappel, c'est en cela qui permet d'accrocher un esprit au réel, à l'action à faire, n'a qu'une fonction de rappel, mais ne contient pas la mémoire.
Alors, il est important de rappeler ici, d'un point de vue méthodologique, hein, qu'un texte doit être non seulement commenté, expliqué, ça c'est le contrat qu'on doit remplir, hein, quand on est candidat au bac, mais que l'on doit aussi le discuter. Hein, c'est-à-dire, éventuellement, alors si on a des connaissances, comme tu viens de le rappeler ici, hein, de textes antérieurs de Bergson, c'est parfait, mais par ailleurs, hein, on peut discuter avec ses propres moyens ou avec d'autres textes vus dans l'année. Ici, d'ailleurs, on peut... C'est le cas en général, d'ailleurs, quand on a affaire à une analogie, on peut discuter les limites de l'analogie, hein, tu viens de le faire ici. Et tu l'as rappelé tout à l'heure, d'ailleurs, ici, on a affaire à deux objets matériels, hein, qui doivent figurer, par analogie, l'âme et le corps, qui sont une chose matérielle dans le cas du corps, et une chose immatérielle, par définition, dans le cas de la conscience. Mmh. Donc, ici, on a aussi éventuellement une difficulté de l'analogie. Ici, Bergson veut être pédagogue en prenant cette analogie, mais il ne peut pas aller jusqu'au bout, finalement, de l'analogie.
Alors, deux choses, effectivement. Comment accrocher une chose immatérielle à une chose matérielle? Donc, c'est une des difficultés ici de l'analogie qui transparaît. Et puis, deuxième point, on pourrait prendre une autre analogie. L'adversaire de Descartes pourrait, par exemple, celui qui défend une thèse, à dire paralléliste, on peut transposer sur le plan de la conscience ce qui se passe, ce qui se déroule sur le plan physique. On pourrait prendre l'analogie d'une main dans un gant et montrer que justement il y a recouvrement parfait. Alors je vais un petit peu plus bas dans le texte. Bergson nous dit, il ne s'ensuit pas que chaque détail du clou corresponde à un détail du vêtement. Alors là, avec la main dans le gant, c'est pas le cas.
Alors justement, avec cette phrase que tu viens de citer ici, hein, on a le sens de l'analogie, le noyau, on pourrait dire, de cette analogie, qui est que s'il y a bien solidarité entre les éléments, hein, entre le vêtement et le clou, tout comme entre l'âme et le corps, pour autant, il n'y a pas identité entre les deux. L'un ne revient pas à l'autre. Et comme tu viens de le citer, hein, il peut y avoir des caractéristiques propres à l'âme qui ne sont pas des caractéristiques physiques.
Qui ne sont pas des caractéristiques physiques, oui. Donc la réalité du manteau, la réalité de l'esprit déborde largement celle du clou, même si on a sans doute besoin, c'est une difficulté ici, du clou pour fonctionner. On n'a jamais vu une âme ou le mental fonctionner sans le cérébral. Et il fait une distinction supplémentaire, on va dire il y a une gradation. Encore moins s'ensuit-il que le clou soit l'équivalent du vêtement, encore moins pardon s'ensuit-il que le clou et le vêtement soient la même chose. Donc ici, ni équivalence, ni non plus identité. Ce serait vraiment la thèse la plus forte, les adversaires ici que Bergson vise essentiellement, réduction, véritablement identification de l'un à l'autre.
Alors nous en venons à la dernière partie. Nous avons rappelé hein, très précisément la thèse de l'auteur, ses adversaires matérialistes, l'analogie du vêtement et du clou et ses limites. Et donc, nous pouvons tirer un certain nombre de conclusions, c'est ce qu'il fait dans cette dernière partie. Donc, peut-être peux-tu expliquer plus précisément ce dernier temps ?
Eh bien, il va tirer les conclusions de son analogie. On retrouve les deux positions, les deux principales positions qu'il mentionnait dans son analogie. Donc, certes, le cerveau, plus exactement, pardon, le mental est bien lié, il y a bien une relation, il est bien accroché au cérébral, mais ce n'est pas la même chose, il écrit, il ne résulte nullement de là que le cerveau dessine tout le détail de la conscience, de la même manière que chaque détail du manteau ne correspond pas à chaque détail du clou, et ensuite critique du fonctionnalisme, cette idée selon laquelle la pensée c'est une production de la matière, ni que la conscience soit une fonction du cerveau. Donc rejet ici de ces deux positions. Donc rejet évidemment du matérialisme de manière générale, rejet du coup du naturalisme et plus particulièrement, on va dire rejet du parallélisme. Donc ce sont beaucoup de mots en isme, cette idée que le cerveau dessine tout le détail de la conscience. Alors je m'appuie pour expliquer ce passage-là sur un autre passage de cette conférence. En somme, j'indiquais tout à l'heure que le cerveau a une fonction de rappel. Il s'agit d'insérer le souvenir adéquat pour l'action à entreprendre. Au fond, c'est une image que prend Bergson. Si nous observons un cerveau en train de fonctionner avec de l'imagerie cérébrale qui est non intrusive, on voit des échanges électriques, on voit des opérations chimiques qui se déroulent. Une autre analogie, ce serait la suivante, ce serait comme si on assistait finalement à une scène de théâtre où on verrait les acteurs jouer, on verrait les acteurs scander la pièce, mais on n'entendrait rien, nous n'aurions pas accès au texte, nous n'entendrions rien de la scène. L'idée de Bergson, c'est si à partir des mouvements des acteurs, on peut bien avoir une certaine idée de ce qui se passe, on est loin, malgré tout, de pouvoir tout comprendre d'une pièce, d'une fine comédie.
Donc, en fait, Bergson ruine par avance le grand rêve des neurosciences actuelles de pouvoir cataloguer toutes nos pensées, ce qu'on disait tout à l'heure, simplement par la simple lecture du fonctionnement de notre cerveau.
Bien sûr, mais le fonctionnement du cerveau est néanmoins important. À partir d'une certaine activité cérébrale localisée dans telle zone, on sait que tel état de conscience ne peut pas, n'est pas présent chez le sujet. Après, c'est toujours quelque chose de singulier qui est vécu à la première personne, qui est irréductible aussi à un état passé. Alors là, ça impliquerait de revenir à un concept fondamental de la philosophie bergsonienne qui est la durée. À partir du moment où un état s'est passé, le revivre une deuxième fois, c'est jamais la même chose, précisément parce que ça a déjà été vécu. Alors que la science ne tient pas compte de la durée. Autrement dit, l'organisation cérébrale produirait deux fois la même humeur. Ou trois fois la même humeur, ou toujours la même humeur, ce qui n'est jamais vécu de cette manière-là.
Oui. Pour le dire en un mot, disposer d'un cerveau, c'est une condition nécessaire pour avoir une pensée, mais ça ne détermine pas quelle pensée précise nous avons et nous sommes en train de vivre précisément à tel moment donné. Alors, il me semble, en lisant la fin du texte, que Bergson en reste à une certaine position sceptique, au fond, comme s'il refusait de prendre parti, simplement en refusant d'affirmer un matérialisme. Mais est-ce qu'on peut pour autant dire qu'il est dualiste ici ?
Alors le dualisme qui consisterait à affirmer l'existence de deux substances autonomes, alors c'est si un élève dégageait cette conclusion, ce serait difficile de lui reprocher. Je crois qu'on peut légitimement tirer cette interprétation-là. On pourrait aussi, à partir du texte dont nous disposons, penser que ce ne sont pas deux substances qui peuvent exister séparément, en pensant que sans doute que l'esprit, pour fonctionner ou pour être esprit, aurait quand même besoin d'une attache cérébrale. Alors, néanmoins, l'analogie tend à nous montrer qu'il y a deux substances séparées et un manteau peut exister sans le clou et un clou peut exister sans le manteau. Donc là, vous avez un dualisme strict. Ce qui pose ensuite la difficile question de la relation entre les deux, problème justement décisif de Descartes, et il faisait lui-même appel à l'expérience, hein. Donc il y a deux substances. L'homme néanmoins, c'est l'union d'une âme et d'un corps, et c'est une expérience qu'on fait quotidiennement. Il s'agit simplement de se laisser vivre. Une dernière petite chose, effectivement, là, ce qui va gêner la science, puisqu'il est question de la science à la toute fin du texte, c'est si au fond l'esprit c'est pas de la matière, qu'est-ce que c'est? Donc là, ça a quelque chose d'immatériel qui n'est pas localisable, et est-ce que la science peut encore fonctionner avec une telle hypothèse? Est-ce que ça bloque pas les recherches scientifiques?
Merci beaucoup Clément, nous arrivons donc au terme de notre émission. Nous souhaitons bien sûr bonne chance, bon courage à tous les candidats qui sont en train de réviser, bonne chance pour leurs épreuves de la semaine prochaine, et également nous espérons que ça a intéressé les auditeurs qui ne passeraient pas le bac, mais qui auront voulu philosopher avec nous pendant ces deux soirées. Merci beaucoup à Bac FM, à Catherine Tripier, à Laetitia qui enregistrait l'émission. Nous aurons le plaisir de vous retrouver peut-être l'an prochain pour une autre série d'émissions. Nous rappelons qu'il est possible de retrouver les émissions, bien sûr celles de cette semaine et celles de l'année passée, sur le site de Bac FM, hein, c'est l'émission Bac Philo, qu'on peut retrouver dans la liste des émissions. Voilà, à bientôt, merci Clément.
Merci.